Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Manger sainement.
La méditation.
Échanger avec les autres.
C'est bon pour la santé.
Respecter mon rythme à moi.
Le bénévolat.
C'est bon pour la santé.
On est de bien meilleure humeur.
J'adore cuisiner pour moi, pour mes enfants.
J'ai mille fois plus d'énergie que j'en avais avant.
Pas trop de sucre, pas trop de sel, pas trop de gras. Faut pas virer fou.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon début d'après-midi, bon mercredi. J'espère que vous allez bien. Marianne Paquette au micro avec vous pour les 30 prochaines minutes. C'est l'émission C'est bon pour la santé sur Canal M et c'est le grand début de cette semaine québécoise des personnes handicapées et ce jusqu'au 7 juin. Je vous en souhaite évidemment une bonne et vous rappelle que demain, je discuterai avec la ministre Lucie Charlebois, elle, ministre déléguée à la réadaptation, protection de la jeunesse, santé publique et également aux saines habitudes de vie. On parlera de la place des personnes handicapées dans notre société, comment mieux les intégrer et le soutien également apporté aux familles. Aujourd'hui, en deuxième partie de l'émission, grossesse, accouchement, les grands sujets de cette deuxième entrevue qui sont probablement des moments de vie extrêmement riches, extrêmement chargés, extrêmement marquants aussi, qui peuvent toutefois être empreints d'inquiétudes, de stress, de beaucoup, beaucoup de questionnements. Julie Bonapace, elle, est maître en éducation, médiatrice familiale, chercheure en périnatalité aussi. Elle est auteure de ce livre « Accoucher sans stress » avec la méthode Bonapace. On en parlera d'ailleurs de cette méthode qui est à la fois dite naturelle, mais basée sur des données scientifiques. Ça met à contribution le papa, ce que je trouve assez intéressant comme aspect. Et en même temps, ben, ça permet, oui, d'une part, hein, comme le titre du livre le mentionne, accoucher sans stress, mais en tentant de réduire les interventions médicales, elle sera là avec nous en deuxième partie. Également, je vous parle de chiffres assez marquants, assez préoccupants, selon l'Organisation mondiale de la santé, et ce sont des statistiques récentes, l'OMS, donc, qui affirme qu'environ 15 % des adultes âgés de 60 ans et plus souffre d'un trouble de santé mentale. Ça me semble beaucoup et en même temps, c'est un enjeu complexe de la santé mentale des personnes âgées parce qu'il y a plein de considérations, plein de points à considérer. Entre autres choses, bon, la santé de la personne âgée qui est peut-être déjà fragilisée par d'autres soucis de santé d'ordre physique, les médicaments qu'elle prend déjà, le contexte socio-économique dans lequel elle vit et son degré d'isolement. Parfois, les proches, la famille est bien présente et parfois non, et ça change bien sûr le contexte. Il y a une équipe multidisciplinaire d'intervenants en santé en gérontopsychiatrie qui, depuis un an, se rendent à domicile pour offrir des soins à des personnes âgées. Cette équipe est menée par le Dr Angela Geloso, psychiatre à la tête de cette unité à l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. On lui parle à l'instant. Docteur Geloso, bonjour.
Oui, bonjour.
Donc, cette unité qui existe depuis un an à peu près, elle vient de quel constat? Bon, vous avez aidé quand même pas mal de gens là, depuis un an, des centaines de personnes. Je n'ai pas le chiffre sous les yeux, Docteur Geloso.
Oui, en fait, on a aidé plus de 120 personnes jusqu'à maintenant.
Ça.
Oui.
C'est ça. Donc, une centaine de personnes. Et parce qu'il y avait, vous avez ciblé un besoin qui était réel, c'est-à-dire ces personnes qui vivent différents troubles de santé mentale et qui sont en détresse. De quelle façon s'est modelée cette unité d'intervention?
Oui, ben en fait, bon, vous venez de le dire là, les troubles mentaux chez les aînés sont quand même de l'ordre de 15 % chez ceux demeurant à domicile, là, un peu plus, beaucoup plus en fait de ceux vivant en institution. Et nous avions déjà dans notre programme de la gérontopsychiatrie, hein, la gérontopsychiatrie, c'est en fait de la psychiatrie là des personnes âgées. Nous avions déjà diverses modalités de traitement, mais rien de mobile ou d'unité donc qui sera à domicile. Donc on a fait le constat qu'il y a certains patients donc on ne rejoignait pas Et également, vous savez, on est dans l'ère des soins à domicile, ouais. de rester le moins longtemps possible à l'hôpital. Donc, c'est mis sur pied, là, cette équipe d'intervention à domicile. Je dois vous dire que c'est une unité, donc c'est un suivi intensif à court terme. Parce que ce qu'on veut faire, en fait, c'est plusieurs choses, mais la principale, c'est d'évaluer et traiter rapidement hein, pour éviter des compensations là, supplémentaires. Et aussi, écouter ou même prévenir certaines hospitalisations là, traditionnelles chez nos patients.
Docteur Geloso, si ces soins sont sur une durée peut-être moindre, après, est-ce que vos patients sont référés à d'autres services?
En fait, oui. Dépendamment du besoin. Une chose qui est très importante là, à l'hospitalisation à domicile, c'est toute la liaison avec les organismes communautaires, avec les CLSC. Et en fait, quand ces intervenants-là sont présents, on ne se substitue pas, mais on travaille en partenariat avec eux. Lorsque notre mandat hein, de traiter là, une décompensation aiguë est terminé, bien, c'est sûr que nous, on reste quand même en soutien advenant des difficultés, puis on s'assure de bien faire une liaison avec donc les intervenants du milieu. Il faut dire aussi que certains de nos patients, bien, on va les référer à notre clinique externe de soins également, ou à leur médecin de famille.
À quoi ressemble le profil de ces personnes âgées?
Donc, c'est des personnes de 70 ans et plus qui présentent des troubles psychiatriques complexes, hein, associés ou non à des problématiques physiques et cognitives. Je vais vous donner un exemple. Un homme de 75 ans vivant avec sa conjointe à domicile qui a une maladie bipolaire de longue date, qui de temps en temps, malheureusement, va faire des dépressions majeures sur lesquelles sur lequel se greffent des problématiques physiques, insuffisance rénale, et chez qui on se demande est-ce qu'il n'est pas aussi en train de développer des troubles cognitifs. Donc, ça peut être le type de patient que l'on soigne.
Des portraits assez complexes, et vous venez de bien le démontrer, Dr Geloso. Est-ce que c'est ce qui explique cette équipe qui semble fantastique, 14 professionnels de la santé, qui ont des portraits ou en fait des spécificités, des spécialités assez uniques? Là, on parle d'ergothérapeute. C'est une équipe qui est multidisciplinaire.
Tout à fait. Bien, en fait, on pourrait pas se passer là, en gérontopsychiatrie d'une équipe multi ou interdisciplinaire. Là, nous avons donc deux gérontopsychiatres là, à temps partiel, un médecin de famille, une travailleuse sociale, une ergothérapeute et 10 infirmières. Parce que la gérontopsychiatrie là, appelle à une évaluation vraiment globale, là. Donc bio-psychosociale, mais également environnementale, familiale. Donc chacun hein, a sa pertinence dans l'équipe et ce qui fait notre force également. Là.
Oui. Quels sont les avantages de ce service?
Je vous dirais que le premier avantage, c'est d'intervenir dans le milieu de vie des gens, ce qui permet à l'équipe hein, d'avoir une meilleure idée hein, des stresseurs environnementaux, de travailler aussi dans le milieu des personnes, fait que ça évite la perte d'autonomie supplémentaire s'il y en a une ou le déconditionnement là, qui peut survenir à l'hôpital. L'autre chose, lorsque des proches aidants, hein, souvent on intervient de concert avec eux, donc on se rend à domicile et les proches aidants sont là. Ça permet aussi hein, de créer chez le patient, chez ses proches, une nouvelle façon, je dirais, de faire face là, à l'adversité, mais tout en demeurant à domicile et de s'adapter là, à ce qui peut être des stresseurs sans avoir à recourir à l'hospitalisation. Puis certaines personnes aussi âgées ne veulent pas, pour différentes raisons, se rendre à l'hôpital, là, en l'occurrence, l'hôpital psychiatrique où nous, nous sommes.
Ce que j'entends bien, c'est que le proche aidant, la famille, les autres proches également font partie prenante aussi du suivi. Est-ce que vous les sollicitez d'une certaine façon? Est-ce que, vous pouvez leur poser des questions pour en savoir davantage sur l'état de santé de la personne que vous suivez? De quelle façon ils vous aident?
Oui, Lorsqu'ils sont présents, nous faisons la plupart du temps ce qu'on appelle une évaluation des informations collatérales, hein, surtout lorsqu'il y a des troubles de mémoire, mais c'est important pour nous hein, de questionner la famille qui connaît le patient depuis longtemps. Ça, c'est une des choses. Quand il n'y a pas de famille, je vous dirais, il y a par exemple, il peut y avoir le soutien à domicile des CLSC. Pour nous, c'est important que la personne pivot du CLSC soit présente pour justement là qu'on ait un travail en partenariat. Donc, c'est pas qu'on prend en charge un dossier et que là, tout d'un coup, les gens qui sont intervenants doivent quitter puis ensuite faire place là à une nouvelle équipe. C'est pas ça du tout. On essaye vraiment là le plus possible là de travailler avec les gens en place.
Et ces suivis qui sont serrés, je disais que parfois vous pouvez aller jusqu'à 3-4 fois semaine chez la personne âgée. Ça vous permet, bon, j'imagine, Dr Geloso, de constater les bienfaits que les interventions ont directement sur la personne suivie.
Oui. Je vous dirais même qu'on peut y aller jusqu'à 2 fois par jour. Hein. Il y a des infirmières qui vont jusqu'à 2 fois par jour. Oui, on constate là, les améliorations et ça marche. Hein. Mm-hmm. Ça marche pas pour tout le monde. Bien entendu, il y a des gens qui doivent malheureusement être amenés à l'hôpital et hospitalisés. Mais c'est vraiment une modalité de traitement qui se fait à domicile puis qui marche, là, oui.
Parce que j'imagine que ce que l'on souhaite ou du moins ce qu'on tente d'éviter, c'est l'hospitalisation de cette personne parce que ça a des impacts, oui, d'un point de vue financier, là, ça a un coût, mm-hmm. mais aussi pour l'isolement de la personne, pour sa santé globale, on préfère garder la personne dans son autonomie à la maison.
Tout à fait. Des fois, on n'a pas le choix d'une hospitalisation, mais quand on a le choix, c'est davantage démontrer, en fait, là, qu'on préserve l'autonomie. Et en plus, l'hôpital peut être un milieu artificiel.
Mm-hmm. Hein? Ouais.
Et les apprentissages qui se font à l'hôpital doivent être transposés au domicile, alors que nous, mais les apprentissages se font au domicile et non pas à être transposés. Là, on les fait directement au domicile.
Est-ce que vous avez pu constater des baisses de médication, un mieux-être, un meilleur fonctionnement? Est-ce que ça peut aller jusque-là dans, entre guillemets, là, les résultats du point de vue de la santé globale de la personne?
Je vous dirais que ce soit à l'hôpital ou à la maison, avec une bonne équipe, les résultats sont similaires. Ce qu'on sait des études, par contre, c'est que la satisfaction hein, des gens est plus élevée.
Ouais.
Donc, c'est le point mm-hmm. principal, là, c'est de rester à la maison et de recevoir des soins. Je dirais que c'est la première chose qui a été démontrée par la recherche. Là. Oui.
Il faut également mentionner, Dr Geloso, qu'il y a une ligne téléphonique qui est disponible 24 heures sur 7 jours.
Oui.
Qui est à l'autre bout du fil?
Une infirmière de notre équipe de garde. Donc, nos infirmières sont de garde à tour de rôle, effectivement.
Il y a toujours quelqu'un pour prendre la relève, pour prendre soin de la personne qui est en suivi.
Oui. Donc, c'est un service 24/7. Et si la personne qui est traitée à domicile doit appeler, ben peu importe là, à quelle heure, là, il y a quelqu'un au bout du fil mm-hmm. Qui répond effectivement.
Bon, on sait que pour être admissible à ce suivi, à ce programme, il faut avoir 70 ans et plus, présenter des troubles de santé mentale assez complexes qui vont de pair avec des problèmes de santé physique aussi. Mm-hmm. Est-ce que c'est le médecin, le CLSC qui vous réfère les patients?
Ben, en fait, les demandes là, nous viennent des canaux habituels. C'est-à-dire que ce soit le médecin de famille, là, que ce soit via l'urgence de l'hôpital, que ce soit également les CLSC, là, les demandes nous proviennent de la façon habituelle. Par contre, on répond très rapidement et on s'assure aussi que c'est la modalité de traitement dont a besoin le patient en question. Je vous dirais que c'est vraiment un traitement intensif Et chez les gens qui ont aussi une problématique complexe, mais qui peuvent se déplacer à la clinique externe, à ce moment-là, c'est la modalité qui va être privilégiée. Nous, c'est vraiment pour éviter des hospitalisations et évidemment aussi pour en écourter certaines.
Oui. Et vous travaillez de pair avec des organismes, entre autres les petits frères, qui veillent bien sûr à briser l'isolement des personnes âgées. En terminant, Dr Geloso, oui. C'est important pour vous de travailler de pair avec d'autres organismes comme ça?
Tout à fait. Tout à fait. Je vous dirais qu'il faut prendre le temps de les connaître. C'est important parce que les personnes âgées que nous traitons, surtout celles qui sont isolées ou qui ont une problématique là, également, par exemple, de problématiques visuelles, on fait appel à des organismes communautaires qui ont vraiment un suivi au long cours et qui sont là quand nous, on se retire. Et c'est très important là, pour tout l'aspect là, de la rémission, effectivement.
Dr Geloso, vous êtes psychiatre à la tête de l'unité d'hospitalisation et résolution de crise de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Merci beaucoup de travailler à menuiser la souffrance des personnes âgées qui sont dans le besoin. Ça a été un plaisir de vous parler.
Mais je vous remercie beaucoup. Au revoir.
Au revoir.
Votre quartier a mis en place une initiative pour améliorer le bien-être de ses citoyens? Vous avez adopté de nouvelles habitudes de vie et depuis, vous dormez mieux? Votre handicap ne vous empêche pas de suivre des cours de danse? Marianne veut tout savoir sur la santé. Partagez vos expériences à canalm@buzevois.com ou par téléphone au 1-800-361-0635, poste 220. Suivez C'est bon pour la santé sur Facebook et Twitter.
Bonapaccio, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. Auteur de ce livre « Accoucher sans stress avec la méthode Bonapaccio », c'est aux éditions de l'Homme, mais également un tas d'autres choses. Julie, médiatrice familiale accréditée, chercheure en périnatalité, conférencière, aussi maître en éducation. La méthode Bonapaccio, c'est une méthode qui, je le disais tout à l'heure, naturelle, basée sur des données scientifiques, mais qui est également reconnue parce que depuis les années début 2000, à l'hôpital Saint-Luc, il y a quand même 150 couples qui reçoivent cette méthode-là. Donc, ça fait ses preuves à quelque part.
Oui, en fait, le programme a été validé scientifiquement hein, dans le cadre d'une étude clinique. Qui a démontré que ça réduisait la douleur de 50 %. C'est quand même un modèle qui date. Hein? Ça fait plus de 26 ans maintenant que je travaille dans le domaine de la préparation à la naissance pour les parents. Je vous dirais qu'à travers les années, mon intérêt au niveau de la recherche puis au niveau de ce que je communique aux parents a changé. L'objectif premier a toujours été de renforcer le couple, de donner une place au père pour qu'il se sente utile, pour qu'il se sente qu'il fait partie du nouveau noyau de la famille qui se développe. L'objectif vraiment de renforcer, c'était pour prévenir les divorces parce que comme j'ai été médiateur pendant plusieurs années... j'ai été très exposée à des familles en difficulté et quand je demandais aux parents qu'est-ce qui était à l'origine des difficultés qu'ils ont connues, on arrivait presque toujours sur la naissance des enfants. D'où l'importance de donner des outils aux couples pour renforcer la dynamique de couple, pour faire en sorte que la transition se fasse plus facilement.
Oui. Vous parlez souvent dans ce livre de la zone zen. En quoi ça consiste, cette fameuse zone-là?
Bien, en fait, je pense qu'il y a un paradigme au niveau du soulagement de la douleur et de tout ce qui entoure l'accouchement. Je vous dirais que si on regarde au début du siècle nos grands-mères ou nos arrière-grands-mères qui avaient des grandes familles de 10, 12, 14 enfants, je pense que chez les femmes, on leur disait, par exemple, que la sexualité, c'était quelque chose d'obligatoire, que c'était un passage obligé, que ça faisait partie de leur devoir conjugal et que le plaisir, c'était, ça faisait pas partie de l'équation. Donc, on peut imaginer que les femmes avaient peu de plaisir, étaient passives dans le positionnement, nommaient pas leurs besoins, pouvaient pas faire des choix. Des fois même, étaient avec des partenaires qu'elles ne souhaitaient pas, qu'elles aimaient pas, un conjoint qu'elles n'avaient pas choisi. Tout ça faisait en sorte que la relation sexuelle était douloureuse. Douloureuse parce qu'elle n'était pas stimulée, parce qu'elle n'était pas lubrifiée, parce qu'elle ne participait pas, parce qu'elle ne faisait pas de choix. Et aujourd'hui, ça a beaucoup évolué au niveau de la sexualité, mais je pense qu'au niveau de l'accouchement, ça n'a pas changé tant que ça.
Ouais.
En fait, on est resté avec le paradigme que accoucher, c'est douloureux. Point final,
terminé. Et que c'est un acte médical aussi. Mm-hmm. Quand c'est pas... C'est pas obligatoire que ça le soit. Là.
Bien, effectivement. Alors, moi, je travaille dans des maternités à travers le monde, donc une quinzaine de pays où régulièrement j'anime des stages pour les médecins, les sages-femmes, les infirmières. Et ce qu'on dit, au fond, c'est que accoucher, c'est douloureux. Donc, ça fait partie de ce qu'on a développé comme culture et de ce en quoi on croit vraiment. Et partout, on cherche à réduire les risques, puis on pense que les risques sont réduits quand on intervient beaucoup. Mais si on a survécu depuis des dizaines de milliers d'années comme espèce humaine, c'est bien que dans notre structure humaine, dans notre corps, on a des ressources qui ont fait en sorte qu'on a survécu. Si c'était si dangereux à accoucher, on se serait éteint comme espèce. Les accouchements ont lieu dans les hôpitaux depuis une centaine d'années maintenant. Les hormones synthétiques depuis 50 ans à peu près, la péridurale depuis une quarantaine, cinquantaine d'années. Donc, ça veut dire que déjà dans notre corps, on a de quoi qui fonctionne. Mais on est tellement pris et on est tellement conditionné par le fait qu'accoucher, c'est douloureux. Et les interventions qu'on fait de routine augmentent ce qu'on appelle la nociception ou le signal douloureux, ce qui fait en sorte que ça reconfirme que c'est douloureux. Fait qu'on parle avec notre ami, c'était à l'enfer, je voulais mourir.
Oui.
On voit les émissions à la télé, les téléréalités, ça confirme, c'est l'enfer. On entend même le discours qui est « il ne faut pas rien sentir ». Donc, moi, régulièrement, je travaille avec des sages-femmes en Europe, entre autres, qui me disent qu'ils n'ont jamais vu une femme sans péridurale. Ça veut dire que c'est tellement conditionné qu'il y a des maternités où 95%, 96% des femmes ont une péri. Alors, l'objectif de ce que je fais, c'est vraiment de réenseigner aux parents comment on fait pour imaginer un autre sorte d'accouchement. Puis comment on fait pour créer cet accouchement-là?
Oui. Ce qu'on entend aussi souvent, Julie, ce sont des couples, des mamans peut-être principalement, qui ont ce plan de naissance idéal avec des champs de baleine, avec des approches douces, sans intervention médicale. Et lorsqu'elles arrivent en centre hospitalier, en milieu hospitalier, ça ne se passe pas comme ça. Vous leur dites quoi à ces mamans, ces couples-là?
C'est une très bonne réflexion. D'ailleurs, récemment, je révisais la littérature scientifique sur les plans de naissance et les résultats sont assez mauvais. En fait, on semble même avoir une corrélation négative avec ce qu'on a écrit. Fait qu'on ne veut pas ça, c'est ça qu'on reçoit. Puis plus on met de ce qu'on ne veut pas, c'est plus que c'est ça qu'on reçoit. Alors, le plan de naissance, c'est vraiment un concept à réviser. Cependant, je pense que le plan de naissance ou ce que nous, on appelle les souhaits de naissance, c'est quand même une intention qui vient des parents qui dit hey, « moi, je veux faire ça autrement ». En principe, si on avait des lieux de naissance qui étaient physiologiques, on n'aurait pas besoin d'un projet de naissance parce que tout ce qu'il y a là-dedans, c'est ce que les évidences scientifiques nous disent qu'on doit faire. Par exemple, manger et boire. Les évidences sont claires là-dessus, qu'il faut laisser les femmes manger et boire. Il ne faut pas mettre un soluté forcément. Justement, aujourd'hui, je suis en train de finaliser la ligne directrice de la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada. Et c'est une ligne directrice qui va guider toutes les maternités canadiennes, les médecins, les infirmières, les sages-femmes, les spécialistes, sur comment on fait pour soulager la douleur. Puis ce qu'on dit là-dedans, c'est qu'il faut commencer par arrêter les procédures qui augmentent la douleur, comme par exemple le fait que la femme ne puisse pas manger. ou boire à sa guise, ça augmente la douleur. Le fait de déclencher un travail synthétiquement ou utiliser des hormones synthétiques, ça va aussi augmenter. Le fait d'empêcher ou que la femme ne puisse pas bouger librement parce qu'elle est prise sur un moniteur ou sur un soluté, ou qu'elle ait la péridurale, ça va moduler, donc ça va moduler sa capacité de bouger. Il y a une série d'interventions de routine qui se produisent dans les milieux et qui font que ça augmente le signal. Fait que même le gouvernement du Québec, avec l'Institut national d'excellence en santé, hein, a écrit un rapport il y a 2 ans peut-être où il a dit qu'il faut qu'on révise toutes ces interventions parce qu'elles nuisent. Elles nuisent à la sécurité de la mère et aussi à la qualité de vie.
D'entrée de jeu, dans le livre, vous parlez également de la préparation. Vous parlez d'exercices très concrets, tout simples, qui ne coûtent pas plein d'argent. Là, on parle de respirer, on parle de faire du yoga, on parle de rester en forme, de rester actif aussi. C'est une façon aussi de se préparer à un accouchement sans douleur, sans stress.
Bien, en fait, la préparation, je pense qu'il faut travailler sur plusieurs plans. Le premier plan sur lequel il faut travailler, il faut c'est-à-dire... peut-être mettre un peu d'emphase, c'est la préparation physique, parce qu'on accouche avec notre corps. Alors, ouais. Tu peux lire tous les livres que tu veux. Dans ton corps physique, si tu n'as pas une connexion, s'il n'y a pas une relation avec ton corps où tu es capable de rentrer dans ton corps, dans tes cellules, que j'appelle, ça va être difficile. Donc, il y a des processus qu'on apprend par les postures de yoga qu'on enseigne. On enseigne comment assouplir le bassin, assouplir le plancher pelvien, le renforcer aussi, aligner le bassin pour que le bébé rentre bien. Parce que si le bébé rentre pas bien dans le bassin, ça peut augmenter la durée du travail, ça peut augmenter les sensations. Donc, le fait d'être prêt physiquement, c'est déjà ça. Mais récemment, mes collègues et moi, on a publié une méta-analyse. C'est une étude qui regroupe 55 études des ECA, donc des études de haute qualité. Et ce qu'on a démontré là-dedans, au fond, c'est que le meilleur prédicteur du succès d'un accouchement, c'est les émotions de la femme, c'est ouais. l'état émotionnel de la femme.
Donc, la préparation psychologique.
Psychologique et émotionnelle. Ouais. Que la femme soit capable d'exprimer qu'est-ce qu'il sent, puis d'avoir des outils concrets pour moduler ou pour progresser vers une meilleure confiance. Puis ça, là-dessus, on n'est pas très bon hein, dans les systèmes classiques parce que nous, on met beaucoup d'emphase sur la santé physique. Donc, on monitore le bébé, le sang, les urines, tout ça. Mais derrière tout ce corps-là, il y a une personne. Et si on n'adresse pas la personne comme telle, on ne réussira pas à vraiment avoir un impact sur la sécurité de l'accouchement et le plaisir qu'on peut
vivre. Une personne, un papa, une famille ou une famille en devenir un couple. J'aurais aimé ça avoir plus de temps pour aborder la présence du papa, justement, qui est vraiment au cœur de vos recherches, Julie Bonaparte. Mais on aura peut-être l'occasion de se reparler.
Je vais revenir.
Ça serait vraiment un plaisir. Julie Bonaparte, auteure de ce livre « Accoucher sans stress » avec la méthode Bonaparte également. Vous êtes médiatrice familiale, également chercheure en périnatalité. Ça a vraiment été un plaisir de vous avoir aujourd'hui, Julie.
Merci.
Merci. Jean-Sébastien Laliberté derrière sa console, c'est Marianne Paquette au micro. On vous donne rendez-vous demain. D'ici là, portez-vous bien. Bye-bye.